Identité, territoire et création.
Ça fait plaisir de vous voir. Si vous avez besoin de moi, vous criez mon nom, je serai là.
Le 12 juillet 2007, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Festival d'Avignon et la Pensée de Midi s'associaient pour proposer deux tables rondes, identité et territoire, identité et création. Grenouille vous donne à entendre en 7 épisodes le contenu de ces débats animés par Thierry Fabre, ainsi que des interviews des intervenants, philosophes, historiens, géographes, metteurs en scène, écrivains et musiciens, réunis en Avignon pour nourrir la question des identités d'une réflexion à plusieurs voix. Michel Guérin, philosophe.
L'identité, c'est constamment de se réfléchir et par conséquent de créer au sein du moi, puisque la notion de moi a été alléguée à juste titre, on aurait pu parler de sujet, d'ailleurs il est question aussi du sujet, de créer par conséquent au sein du moi ou du sujet, s'il s'agit d'un pays, la France, ou d'une personne, au sein de la France, cette distance critique permanente. C'est ça, l'identité. Je veux dire que l'identité est une notion dynamique et ouverte.
Mais ce n'est pas un miroir.
Si, c'est aussi un miroir.
Ah.
Si, c'est aussi un miroir. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un sujet? Pour qu'il y ait une identité, il faut qu'il y ait un sujet. Je dirais qu'il y a deux conditions formelles de l'identité. C'est d'une part ce que j'appellerais l'unitas multiplex, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une unité qui soit capable à tout moment de rassembler une multiplicité d'événements, d'avatars, d'aspects, de facteurs, de paramètres, de diversité, bref. Mais en même temps, l'identité, c'est de pouvoir se référer à soi. Se référer à soi comment? Ou bien de façon symbolique et verbale, ou bien de façon spéculaire. Je veux dire que la notion de réflexion, pour un sujet, a deux significations principales. La réflexion, c'est la capacité critique de se référer à soi, mais sans pour autant vénérer son image. Mais la réflexion, c'est aussi, Lacan l'a assez montré dans le fameux stade du miroir constitutif, précisément, de l'unité de la personnalité de l'enfant dans une sorte de dialectique du corps et de la capacité de dire « je », donc de ramener des déterminations à soi. Donc, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de réflexion subjective sans, d'une part, la capacité critique de créer une distance et de se référer à soi-même comme à un autre, je dis bien comme à un autre. Mais en même temps, inévitablement, la réflexion, c'est aussi de se regarder. C'est-à-dire de se prendre d'une certaine façon comme on est ou comme on se voit, avec les bons côtés et les côtés plus sombres. Et je crois que de ce point de vue-là, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La notion d'identité doit être, à mon avis, conservée, mais elle doit être constamment réfléchie, constamment critique, constamment ouverte.
Mais comme disait Paul Ricoeur, c'est soi-même comme un autre. Aussi.
Exactement.
Essayer d'avoir cette démarche-là.
Et c'est ce que dit Derrida.
Ce serait peut-être justement intéressant, à partir de cette réflexion sur l'identité, de l'appliquer, puisque c'est ce que vous avez fait dans ce texte, à la France, l'identité de la France. Peut-être quelques mots sur ce travail de Braudel, souvent critiqué, mais auquel vous donnez plutôt un assentiment. Est-ce que vous appelez, au fond, la forge de la nation, la forge de l'État-nation, et de cette singularité française d'unité multiple? Alors, l'identité de la France, de quoi s'agit-il?
C'est extrêmement
vaste question.
Extrêmement difficile de répondre.
Je crois qu'on va essayer de circuler ce matin, puis dans ce rapport à identité et territoire, à plusieurs échelles. Région, nation, Europe, Méditerranée. Et je pense que c'est en circulant dans ces différentes échelles de territoire que l'on pourra essayer d'y voir un peu plus clair quand on parle d'identité.
Alors je vais essayer de trouver un biais qui me permettra de condenser au maximum. Je vais employer une métaphore au demeurant qui renvoie à ma spécialité, c'est-à-dire l'esthétique, la métaphore de la plasticité. Il me semble en effet que une identité, c'est à la fois du corps, quelque chose qui a une physicité, une matérialité si on veut, une anatomie, une physiologie, et en même temps c'est du symbolique, c'est de l'imaginaire. Donc l'identité de la France, alors attention, je ne suis pas en train de faire du Blut und Boden, c'est exactement le contraire.
De l'essentialiser.
C'est exactement le contraire, parce que le corps dont je parle, c'est d'une part effectivement quelque chose qui relève de la géographie, mais là je ne vais pas trop m'avancer parce que je serai en terrain où je pourrais difficilement effectivement me rattraper. Mais tout de même, moi j'aime bien cette notion de région. La France, d'une certaine façon, est une région de l'Europe. Elle est composée de régions, mais c'est une région de l'Europe à son tour. Or, je me plais à remarquer que cette notion de région, elle a aussi un sens, par exemple, théologique. Elle n'a pas qu'un sens géographique, elle a un sens théologique. On trouve chez certains pères, par exemple, la notion de région de dissemblance, qui est le propre d'une créature qui s'éloigne de plus en plus du créateur. Bon, donc la région, c'est un peu la chora des Grecs, c'est-à-dire quelque chose qui est souple, qui est ouvert, qui est climatique, qui est théologique, qui est un régime d'image, qui est un corps, qui est une physiologie.
Et qui fonde donc un territoire.
Qui fonde... pas vraiment un territoire. La France a fondé son territoire depuis un corps, depuis une région. Mais le territoire, c'est une notion politique. Et puisque je disais précisément que le propre d'une réflexion intéressante sur l'identité, c'était qu'elle soit non pas complaisante mais critique, le mérite précisément, à mon avis, des analyses de Braudel, c'est de relever aussi les infirmités, les points faibles de la France. Comment finalement un pays essaie tant bien que mal de faire avec ses faibles des forts ou des forts relatifs. Or, parmi ces faibles que relève Braudel tout au long de l'histoire de France, il y a ce que j'appellerais ce complexe de la frontière. C'est-à-dire que la France a toujours été obsédée, ce qui explique un petit peu les rois, le centralisme, le jacobinisme, la France a toujours été obsédée par cette idée de frontière, donc par cette idée de territoire. C'est pour ça qu'elle a consommé, par exemple, des soldats. C'est pour ça qu'il y a eu toujours cette volonté de garder la frontière. C'est pour ça qu'il y a eu le blocus continental. Et dans la même foulée, Braudel montre, par exemple, que la France a ignoré la mer. Alors qu'au contraire, l'Angleterre a assuré durablement sa puissance, finalement, sur le sea power, sur le pouvoir ouvert par définition de la mer. Donc voilà une faiblesse de la France. C'est le territoire. Mais le territoire, c'est aussi une notion politique. C'est ce qui assure la souveraineté du roi sur ses sujets. C'est ce qui fait une sujétion au territoire. C'est pas la même chose que la région. La région est une notion physique, une notion physiologique, une notion affective, une notion sensible. Le territoire est une notion politique, éminemment.
De ce point de vue-là, à travers la lecture de l'identité de la France, de Braudel, vous dégagez presque une notion, je dirais, transhistorique. Qui constituerait l'État-nation et peut-être la singularité de ce pays. Mais est-ce que ce rapport au transhistorique, est-ce que c'est pas, il n'y a pas un risque un peu d'essentialiser la France dans cette image de la grande nation et donc d'une identité qui, à travers cette magnificence ou cette rapport à l'universel, est au fond une assez grande singularité et presque un enfermement. En tout cas, la grande nation, elle était aussi très impériale, non ?
Il ne s'agit pas de magnificence ni de je ne sais quel embellissement. Il s'agit de constater quelque chose qui me paraît à moi essentiel, c'est-à-dire que pour un pays comme la France, qui justement ne s'est pas constitué à partir d'une notion de folk, c'est-à-dire d'une notion raciale, nationale raciale, völkisch, comme on dit en allemand, de peuple, eh bien, le rapport à son idée me paraît essentiel. Et ce rapport à son idée, à un moment donné, ça s'appelle la fédération. Et particulièrement la fête de la fédération du 14 juillet 1790. Et je crois que la France, c'est ce qu'elle est plus son idée. C'est-à-dire qu'elle est constamment en train de se dialectiser par rapport à son idée. C'est pas une relation d'auto-fascination. C'est l'idée que le symbolique, ça compte beaucoup pour un pays comme la France. Il y a des pays pour lesquels le symbolique compte moins.
Ce que De Gaulle appelait la Madone aux fresques des murs, c'est ça?
Ben, peut-être. Et de ce point de vue-là, moi, je suis pas de ceux qui rechignent à revendiquer l'héritage gaullien. Je le revendique absolument.
L'idée de la nation. Alors, l'identité, l'idée de la nation, on n'en
parle pas. L'État-nation. L'État est une construction politique, historique, donc caduque. Mmh. Mais la nation me paraît, elle, une notion transhistorique.
Seconde, on retrouve Michel Guérin, philosophe, que j'ai rencontré à l'issue de cette table ronde Identité et territoire, pour répondre à deux questions. La première, l'identité est-elle liée à la croyance ?
C'est la croyance qui nous fait faire quelque chose. Et s'il y a en effet, comme vous le suggérez par votre question, s'il y a un domaine vaste dans lequel la croyance est indispensable, c'est bien, en effet, le domaine des identités politiques. Je pense qu'on ne peut pas être français sans adhérer, d'une certaine manière, à une certaine image de soi et des autres qui nous rassemble dans le signifiant français. Donc je ne peux pas être français sans croire que je le suis. Je ne peux pas non plus être poitevin ou bourguignon ou provençal si je ne me réfère pas à un certain nombre d'icônes qui, précisément, confortent cette volonté que j'ai de continuer à militer, en quelque sorte, sur ce plan-là. Et je ne peux pas non plus être européen en me contentant d'une idée intellectuelle. Je ne peux être européen que si je crois que l'avenir est, en effet, à la construction de l'Europe, que si l'Europe est mon projet. Donc je crois, en effet, que la croyance est tout à fait essentielle et que le terrain politique est celui qui peut-être nous donne la preuve la plus éclatante de son rôle.
Vous êtes, je crois, particulièrement intéressé par la question de l'esthétique. Alors je vais vous parler d'art, de l'art du XXe siècle. Est-ce que cet art, parfois radical, je pense par exemple à une figure un peu emblématique qui serait celle de Marcel Duchamp, est-ce que cet art aurait été iconoclaste et nihiliste au point d'anéantir des icônes qui sont nécessaires pour former des germes sur lesquels se fabriquent les identités ?
Oui, je pense qu'on peut dire que l'art du XXe siècle est fondé d'une certaine manière sur le nihilisme. Mais je crois qu'il faut donner à cette notion de nihilisme une signification précise et bien contextualisée. Si on entend par nihilisme, le mot apparaît d'ailleurs dans le vocabulaire européen et français en particulier vers 1860, et c'est pour désigner des formes radicales d'action politique. Par exemple les nihilistes russes, fondés sur le terrorisme, les attentats, etc., etc. Et puis il y a une autre signification qui apparaît 10 ou 15 ans plus tard avec Nietzsche, qui est une signification philosophique et qui signifie exactement que les valeurs dans lesquelles les hommes jusqu'ici ont cru le plus, c'est-à-dire qu'ils ont prisé au plus haut point, au point même de les identifier avec les plus hautes réalités, ces valeurs-là, par le fait même du processus historique et par le fait aussi de la laïcisation croissante du monde, sont entraînées dans une logique infernale de dévalorisation. Et par conséquent, les hommes se trouvent tout à coup devant une sorte de rien, devant une sorte de vide. Et c'est vrai que ce vide porte essentiellement sur les images, puisque très souvent, ce que nous vénérons, ce que nous adorons, ce que nous admirons, ce sont des icônes. Et c'est vrai que l'art du XXe siècle est incompréhensible, notamment dans ses avant-gardes extrêmes, sans cette dimension nihiliste. Vous avez cité Duchamp. Je voudrais justement rappeler un mot de Duchamp. Duchamp écrit dans un texte, dans une note qui se trouve dans son livre « Duchamp du cygne », il parle de sa carrière et de ses débuts, et il écrit cette phrase, il dit « réduire, réduire, réduire », donc il emploie le verbe trois fois, était mon obsession. Et c'est vrai que si vous regardez le procès, le mouvement de l'art moderne tout au long depuis la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, ce qu'on a appelé les avant-gardes, les modernités, le modernisme, vous vous apercevez que tout nouveau mouvement est occupé à essayer d'ôter de la définition de l'art des dimensions qui jusqu'ici étaient considérées comme lui appartenant et qui tout à coup apparaissent comme adventices, apparaissent même comme gratuites ou finalement inutiles. Par exemple, Manet le premier déconstruit la codification de l'art classique et romantique, fondée sur la perspective, fondée sur le modelé, etc. etc. Bon, l'art abstrait, l'art non figuratif, déconstruit l'idée que pour faire un tableau, il faille des figures. Je pourrais multiplier les exemples. Donc c'est vrai que le nihilisme est quelque chose qui, philosophiquement, appartient, je crois, non seulement au processus en général de l'art du XXe siècle, mais je dirais appartient de manière implicite et assez fondamentale à toute la culture politique, philosophique, religieuse du XXe siècle. Et nous n'avons pas, d'une certaine façon, encore surmonté le nihilisme.
Merci Michel Guérin.
Merci.
Rendez-vous demain à la même heure pour la seconde de cette série d'émissions spéciales Identité, territoire et création. Après Michel Guérin, philosophe, nous entendrons le point de vue de Benjamin Stora, historien.